Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode et s'il vous plaît, on le dit, on le redit, ça nous fait tellement plaisir et ça nous aide tellement aussi quand vous allez nous suivre sur nos réseaux sociaux, que vous soyez avec nous pour tout ce qu'on publie. On est surtout active sur Instagram, Crime et Cocktail, Crime avec un S, Cocktail avec un S, Podcast, donc Crime et Cocktail Podcast, le E, c'est E-T, parce qu'on peut pas mettre de symbole, ça a l'air sur les noms sur Instagram, donc on a fait avec ce qu'on avait. Puis surtout, ce qui nous aide le plus, c'est d'aller nous donner des notes sur Apple Podcasts, Spotify, 5 étoiles, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
On enchaîne tout de suite avec les moments what the fuck de la semaine. Donc, c'est moi qui va commencer cette semaine. J'ai pas vraiment de moments what the fuck de la semaine. Tout a été un peu mêlé depuis que j'ai eu l'accident, la graduation, la commotion et tout. Mais j'avais pas tant envie d'en parler, mais je vais juste rapidement dire quelque chose là-dessus. Quelques jours après que j'ai eu mon accident, j'ai un membre de ma famille qui est décédé, puis on a eu plusieurs membres de ma famille qui sont décédés la même année que mon père est décédé aussi. Fait qu'en tout cas, sur le coup, je me suis sentie super mal parce que c'est quelqu'un dans ma famille avec qui, même si on avait été super proches dans notre vie, qu'on se ressemblait vraiment beaucoup, on a eu beaucoup d'opinions divergentes. On s'est chicané un peu souvent. Heureusement, avant que cette personne-là décède, on s'était parlé, on s'était excusé. Mais sur le coup, quand c'est arrivé, je me sentais tellement mal, je me sentais vraiment comme une mauvaise personne. Bref, tous les pires sentiments que tu veux ressentir envers toi-même. Puis je me suis rappelé assez rapidement que ça sert à rien d'avoir des regrets vis-à-vis d'une situation que tu ne peux pas changer. Donc je voulais juste dire à tout le monde qui écoute que soit parce qu'un membre de votre famille décède, vous frappiez vraiment sur la tête sur ce que vous auriez pu ou ce que vous auriez dû faire, les choses ne peuvent pas changer. Vous êtes quand même une bonne personne malgré tout. La vie fait en sorte que les choses arrivent d'une certaine façon, c'est pas nous qui décident. Et je voulais juste prendre le temps aujourd'hui de dire « Hey, est-ce que vous avez pris le temps de vous aimer aujourd'hui? Est-ce que vous avez pris le temps de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimiez? » Puis surtout aussi de vous dire « Le lien de sang, c'est pas tout dans la vie. » Là, je dis pas que la personne que j'ai perdue n'avait aucune valeur à mes yeux, absolument pas. Mais je veux juste dire que des fois, on s'acharne vraiment sur le lien de sang. On y donne une importance, mais s'il y a certaines personnes dans votre famille qui vous font pas se sentir bien, qui vous valorisent pas, qui vous respectent pas, le lien de sang, il vaut rien. Fait que c'est ça mon what the fuck cette semaine. Aimez-vous.
C'est tellement un beau message. On dirait que j'ai envie d'extendre ça à tout le monde dans votre vie. Tu sais, des fois, il y a des amis, mettons, qu'on garde parce qu'ils sont amis avec d'autres amis ou parce que ça fait longtemps que c'est nos amis ou whatever, mais... Si quelqu'un ne te fait pas bien sentir, ami, partenaire, ne les garde pas dans ta vie. La vérité, c'est que les seules personnes avec qui tu n'as pas le choix de dealer, c'est tes collègues de travail. Et même là, t'es quand même capable de mettre tes limites. Fait que, ouais, respectez-vous, aimez-vous dans toutes les sphères de votre vie, puis respectez-vous assez pour savoir que vous méritez d'être respecté puis d'être bien. Voilà.
Le self-love, c'est important.
Tellement, j'ai tombé sur un TikTok, je pense que ça va être ça mon moment, moi, j'ai tombé sur un TikTok récemment, puis la personne disait « Tu reconnais comment tu t'aimes quand tu regardes de qui tu t'entoures. » Je trouvais ça tellement beau, puis ça m'a presque fait pleurer parce que j'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie ces dernières années, puis là, je peux vraiment dire que j'en suis à un point où tous les gens qui m'entourent me poussent vers le haut à un point que je peux même pas exprimer, je suis vraiment... la meilleure version de moi que je n'ai jamais été. Puis je sais que c'est grâce aux gens qui sont alentour de moi, mais aussi je sais que c'est grâce à tout le cheminement que j'ai fait intérieurement, émotivement, puis quel point j'essaie de cheminer en tant qu'humain. Puis c'est ça, je trouve que c'est beau à remettre en perspective des fois de regarder tout le chemin que t'as fait puis de te donner une bonne petite tape dans le dos puis d'être comme « Hey, ma bonne chum, bravo! » Fait que regardez-vous dans le miroir puis regardez tout le chemin que vous avez fait. Quelque chose que j'aime bien faire des fois, c'est regarder une photo de moi quand j'avais comme 12, 13, 15 ans. Puis imagine que cette version-là est assise sur ton lit, sur ton divan, puis jase-y de ta vie.
C'est tellement bon. Ça me donnait des frissons ce que t'as dit. Puis si je peux rebondir là-dessus aussi, là, c'est sûr que nous, moi et Jess, on est dans la fin de notre vingtaine. On n'a pas eu autre expérience de vie de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, parce que ben on n'est pas rendu là. Mais si je peux parler spécifiquement pour la vingtaine, comment je suis maintenant, comment j'étais quand je commençais la vingtaine, c'est tellement différent, puis il y a tellement un ménage qui s'est fait. S'il y a des jeunes personnes dans le début de leur vingtaine qui nous écoutent en ce moment, c'est correct de faire du ménage, c'est correct de pas fitter avec certaines personnes, puis rester pas avec des gens qui vous font sentir pas bien, ça vaut tellement pas la peine, puis de toute façon, avec le fil du temps, ces personnes-là vont partir de votre vie d'une façon ou d'une autre. On dit ça comme si c'était tellement facile à faire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Votre priorité numéro un devrait toujours être vous-même. Puis la vie est tellement trop courte pour qu'on fasse juste rester avec des gens autour de nous qui, de un, nous donnent le pire d'eux-mêmes, puis qui font ressortir le pire de nous-mêmes en plus de ça, puis qui nous font sentir pas bien.
Tellement bien dit. Puis aussi, tantôt, t'as parlé comme de remords, de regrets. On dirait que je veux juste rajouter un dernier petit rappel motivation aujourd'hui, mais s'il vous plaît, ne vous tapez jamais sur la tête pour une réaction qu'une version antérieure moins guérie de vous a eue. Je pourrais dire en anglais comme une « unhealed version ». Tapez-vous jamais sur la tête pour des comportements que vous avez pu avoir quand vous étiez en train d'apprendre à vivre, puis à vous générer, puis à vous réguler. C'est vraiment difficile à faire, à se connaître. Fait que tapez-vous pas sur la tête pour ce qui peut avoir été commis. L'important, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez avec vos yeux nouveaux, puis que vous savez ce que vous auriez pu faire de différent, puis que vous le gardez en vous.
Je rebondis une dernière fois parce que je trouve ça tellement beau de quoi qu'on parle aujourd'hui, puis je trouve que c'est important. Puis quand j'écoute certains podcasts qui disent des choses comme on dit aujourd'hui, ça me fait sentir tellement bien dans ma journée. Fait qu'on va continuer sur cette lancée-là, mais je trouve que c'est aussi important, tu sais, oui, comme tu viens de dire, Jess, de pas se taper sa tête pour une version unhealed de nous, mais si on retourne, tu sais, la situation vers l'autre personne qui a, tu sais, on a reçu comme certains, je dis pas d'accepter le mal de tout le monde puis de les pardonner, c'est pas ça que je dis du tout, là, mais je trouve qu'on a vraiment oublié en tant qu'humain que c'est important de regarder la vie autour de nous avec amour. C'est juste que chaque situation a son contexte. Je trouve que c'est important de se rappeler du contexte aussi. Puis ça va nous aider, puis ça va vous aider aussi à guérir. En fait, moi, ça m'a tellement aidé à guérir de me rappeler le contexte de la vie des personnes qui m'ont fait certaines choses. Là, je manque de mots, là, mais bref, c'est ça.
Oui, puisque ce que les gens te font, c'est un reflet de eux puis de leur propre bataille interne. C'est rarement par rapport à toi. Là. Oui, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions puis qui font des choses méchantes dans la vie. Mais techniquement, là, quand quelqu'un te fait du mal, je te garantis que c'est parce que cette personne-là souffre d'une partie aussi. Fait que comme tu dis, de toujours prendre ça en perspective puis d'accepter que chaque personne combat ses propres batailles.
Puis là, c'est bien beau tout ce qu'on dit. Mais des fois, comme Cardi B l'a dit, faut choisir la violence, c'est la seule option. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, faut aussi apprendre à mettre ses limites. Tout ne peut pas être la vie en rose, si on comprend ça. Puis il y a certaines limites qu'il faut se mettre. Puis je trouve que c'est la beauté de la vie, c'est qu'il faut juste voir chaque situation dans son contexte à elle. Puis après ça, tant qu'on essaye le plus possible d'agir pour le mieux pour nous, d'agir dans un contexte d'amour, ça va mieux aller.
Puis tu peux justement retirer des gens de ta vie en tout amour. Je veux dire, si tu écoutes ce podcast aujourd'hui et que je t'ai retiré de ma vie, que je ne te parle plus, sache que je t'aime encore. Puis j'aime encore la version de moi qui a été avec toi. C'est juste que j'avais besoin d'évoluer. Puis je comprends d'où les gens viennent, même s'ils me font du mal, mais ça veut pas dire que je décide pas de les enlever de ma vie non plus, tu sais.
Puis encore une fois, l'autre côté, si tu écoutes ce podcast et que tu m'as enlevé de ta vie parce que je n'étais pas à ta hauteur, mais que je n'étais pas, que j'étais pas correcte, je sais pas comment le dire plus beau que ça, sache que je t'aime encore, puis que je comprends pourquoi ça s'est arrivé, puis j'espère que maintenant tu vas bien, puis je souhaite à tout le monde d'évoluer en santé, avec amour, avec plein de belles réussites pour être la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça.
Livre de motivation à paraître en deux... Non, c'est pas vrai. Pour vrai, c'était vraiment le fun comme petit message. J'aime ça partager notre maturité émotionnelle parce que faut se dire, on a fait du beau cheminement. Puis je pense que j'aime notre façon de voir les choses. Puis je pense que c'est une façon sur laquelle on se rejoint beaucoup. Puis pourquoi notre amitié est aussi fusionnelle, parce qu'on voit la vie de la même façon.
Ça me fait tellement rire parce que tu as commencé à blaguer sur le fait d'avoir un livre de coach de motivation. La seule affaire que je voyais dans ma tête, c'est notre livre tellement beau. Des belles couleurs, tellement pleines de belles volontés. Puis la fin, la dernière page, c'est juste la quote de Cardi B. « Sometimes violence is the answer.
» toujours avoir un beau contraste. Hey, sur cette note philosophique, si jamais ça vous tente de venir échanger avec nous dans les commentaires, ben je dis les commentaires comme si c'était une vidéo, mais venez donc dans nos DMs, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, mais les commentaires aussi sur Instagram, parce que si vous vous engagez avec nous en commentaire, ça nous aide beaucoup, ça aide l'algorithme pour notre compte à nous, pour Crime et Cocktail. Fait qu'engagez avec nous en commentaire aussi, dans les DMs, en commentaire, partout. Faites-le partout.
S'il vous plaît!
S'il vous plaît!
T'sais, dans la fois, je vous ai donné un défi d'écrire à Noémie, puis vous avez réussi. Mais là, je vous donnerai un défi. Va donc commenter sur la photo, le cocktail, le cas qui t'a le plus plu. Puis des fois, on fait aussi des petits mimes. Essaye d'interagir sur ta publication préférée sur notre compte Instagram, s'il vous plaît!
S'il vous plaît, puis maintenant, on va continuer. On a terminé notre petit segment du jour. Jess, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui?
Aujourd'hui, tu bois, parce que j'ai encore ma maladie avec moi, un drink que t'as décidé de renommer parce que le titre était pas assez fun, puis ben, crème et cocktail, même si on parle de crème pas le fun, on aime ça avoir notre petite portion fun dans notre moment what the fuck, puis notre cocktail, fuck! Le drink qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est un drink assez le fun parce que vous allez devoir écraser des ingrédients et on l'a appelé Dr. Bruce Banner. Dans un shaker, vous allez mettre 3 feuilles de basilic, 1 ou 2 kiwis pelés, je vous vois y mettre la pleure. Vous allez écraser ou smash le tout comme Dr. Bruce. Et vous allez ajouter à votre mixture 2 onces de gin, 1 demi-once de sirop simple et de la glace. Vous allez shake, shake, shake. Et vous allez filtrer le contenu dans un verre avec de la glace et décorer avec une feuille de basilic et une tranche de kiwi. Je sais pas si je me trompe, mais il me semble qu'il y a une compagnie de gin québécois qui fait du gin au kiwi. Fait que, si jamais... Oh non, c'est pas concombre, mais basilic. Anyways.
Je crois que oui, concombre et basilic. Je sais qu'il y a aussi une compagnie qui fait jalapeno.
Donc, après recherche, non, il semble pas avoir de kiwi, de gin au kiwi. Je pense que c'était une bouteille verte qui m'a fait penser au kiwi. Fait que fausse alerte, je m'excuse. On vend du rêve. Du faux rêve.
On se perd, je vais donner ma note. Personnellement, j'adore le kiwi et je suis désolée pour les personnes qui sont allergiques. C'est pas un cocktail pour vous. Je donne un bon 9. Moi, je vais aller avec un 9. Un 9 sur 10. Je pense que ce serait quand même intéressant de rajouter dans le verre quand vous allez verser votre contenu du shaker dans le verre, de rajouter avant ça un petit peu de jus kiwi, kiwi fraise. Ça va peut-être un peu rehausser le goût du cocktail. Que je pense que ce serait un petit plus qui viendrait gagner le 0.5 que j'ai failli dire, mais que j'ai pas dit. Mais je trouve que c'est tellement rafraîchissant, je trouve ça tellement beau avec la petite tranche de kiwi. 9 sur 10, puis je pense que Jess, mec, tu y goûtes, mec, tu sois plus malade, tu vas aimer ça aussi.
C'est clair que je vais aimer ça parce que j'aime beaucoup le gin, j'aime beaucoup les kiwis. Et fun fact, j'avais une ex qui mangeait le kiwi avec la pleure.
Qui c'est qui mange les kiwis avec la pleure? C'est quoi le fun qu'il y a? Si vous mangez les kiwis avec la pleure, je vous juge pas. Un petit peu. Mais je veux juste savoir le fun est où. Il me semble que c'est... T'sais, c'est poilu, mais c'est raide, là. T'sais, voilà, il y a où le fun? Slide dans les DM si vous faites ça parce qu'on veut savoir le fun est où de manger les kiwis avec de la pleure.
Aucune espèce d'idée. Moi, l'argument était un argument de paresse. C'était plus rapide, puis ça goûtait pas mal sensiblement la même chose. Je dois avouer ne pas avoir adhéré à cet argument.
Avant de finir, je tiens juste à dire pour les personnes qui disent ça, si vous voulez manger un kiwi vraiment simplement, faites juste le couper en deux, prenez une petite cuillère, puis... mangez-le, comme ça. Comme si le kiwi était un bol, puis que vous mangez le kiwi. Tu sais, le verre qui est à l'intérieur. That's it au basketball. J'ai jamais eu un fruit autant facile à manger que ça. Puis si vous avez pas de cuillère à votre portée, je sais pas quoi vous dire. Bref.
Cheers!
Chin, chin!
Fac, ma bonne chum, de quoi tu me parles aujourd'hui pendant que je suis bien évachée dans ton lit en faisant un gros câlin à ton squishmallow de serpentard?
Imaginez ça. Vous venez d'une famille aimante, vous avez une carrière florissante et déjà pleine de succès. Vous avez l'amour de votre vie à vos côtés, un mariage, des enfants. Tout semble parfait. Puis un jour, vous rentrez chez vous après un voyage et là, vous trouvez votre maison vide. Et c'est là que le cauchemar commence. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont CBS News, CBC, Wikipédia, New York Times, RootMarkle.com, Forbes, TaxProof.typepad, Above the Law, The CGN, ABC News, Miami Herald et ABC 7 Chicago. Daniel Eric Markle est né le 9 octobre 1972, faisant de lui une balance à Montréal, au Québec, et a ensuite été élevé à Toronto dans une famille juive. Lui et sa sœur Shelley Markle étaient les enfants de Ruth et Phil Markle, des parents aimants ayant à cœur le bien-être de leurs enfants. Ruth Markle, c'est une auteure réputée, une conférencière et la présidente de R&M Enterprises, une importante société de conseil en gestion. Phil Markle, quant à lui, c'est un directeur général expérimenté avec une expérience démontrée dans le secteur de l'entreposage. Ruth a dit que son fils avait une personnalité très énergétique. Il n'hésitait pas à dire à ses amis, dont il en avait tellement qu'il est impossible de les compter, qu'il les aimait. Son amitié, elle était constante. Que vous l'ayez vu pour la dernière fois depuis une semaine, un an ou 3 ans plus tôt, il va vous donner la même impression que comme si c'était hier. Ayant toujours rêvé d'aller étudier et vivre à l'étranger, il a déménagé pour faire des études de premier cycle à l'université Harvard. Après des séjours en Angleterre et en Israël pour poursuivre ses études, notamment un diplôme en droit à l'école Harvard en 2001, Dan a déménagé à Washington pour travailler comme avocat. Dan, c'était le genre de personne qui voulait le meilleur pour les gens de son entourage. Dans sa vie professionnelle, ses critiques étaient parfois dures, mais toujours constructives. Son objectif, c'était de perfectionner les idées, de les pousser à leur apogée et, à ses yeux, la critique, c'était une forme de compliment. Une critique rigoureuse signifiait que les idées étaient dignes d'attention et de développement. Même face aux idées les plus audacieuses ou ridicules, il a apporté généreusement sa contribution pour les enrichir et les éclairer davantage. Avant d'entrer dans l'enseignement, Dan a été juriste auprès du juge Michael Daley Hawkins de la Cour d'appel des États-Unis pour le 9e circuit et a été associé au cabinet d'avocats Kellogg, Huber, Henson, Todd, Evans & Feigl à Washington, D.C., pratiquant la défense pénale en col blanc. Son travail au sein du cabinet consistait notamment à représenter un groupe de professeurs de droit dans le cadre d'un mémoire d'amicus dans une affaire pénale devant le 9e circuit. Il a rejoint la faculté du Florida State University College of Law en 2005, il a été titulaire en 2010 et a occupé le poste de professeur de droit d'Alembert au Collège de droit de la FSU. Universitaire prolifique dans les domaines du droit pénal et des sanctions, il a publié de nombreux articles de revues de droit, des articles pour des médias d'intérêt général comme le New York Times et Slate, ainsi qu'un livre intitulé « Privilege or Punish? Criminal Justice and the Challenge of Family Ties ». Comme la majorité des gens, Dan nourrissait le rêve d'un jour trouver l'amour et fonder sa propre famille, rêve qu'il croyait s'être réalisé quand il a rencontré Wendy Jill Adelson sur un site de rencontres juifs. Selon différents médias, la mère de Wendy, Donna, l'a aidé à trouver, entre guillemets, un bon mari juif sur le site de rencontre et l'a donc aidé à choisir Dan. Après que Wendy ait terminé ses études de droit, ils ont déménagé à Tallahassee. Le couple est sorti ensemble pendant un certain temps avant de se marier en février 2006, alors que Wendy avait 26 ans et Dan avait 33 ans. Pour le mariage, la famille de Wendy s'occupait de payer le prix de la nourriture et quand Dan s'est présenté à sa propre réception, il s'est rendu compte que la nourriture n'était pas « kosher » comme on lui avait promis. « Kosher », c'est le terme anglais, le terme français, c'est, je sais pas comment le prononcer exactement, mais « kasher », j'imagine. Si vous pouvez me le dire comment ça se prononce, dites-moi-le en DM, s'il vous plaît, je serais vraiment contente de savoir comment que la version française se dit. Bref, la nourriture kosher fait référence à la nourriture qui respecte les lois alimentaires juives, connues sous le nom de kasherou. Ces lois-là dictent quels aliments peuvent être consommés et comment ils doivent être préparés selon la directive religieuse juive. En termes simplifiés, la nourriture kasher, c'est celle qui est considérée comme rituellement propre et acceptable pour la consommation par ceux qui observent les lois alimentaires juives. Pour bien vous mettre en contexte, pour les Juifs qui observent les lois alimentaires de la kashrout, la nourriture kasher revêt une grande importance à la fois sur le plan religieux et culturel pour plusieurs raisons simples comme les commandements religieux, la pureté spirituelle, l'identité culturelle, le respect de la vie animale et la discipline personnelle. Les Adelson, qui sont donc les parents de la mariée, ont accepté une réception de mariage kasher. Et les Markle ont dit à leur invité religieux, y compris le rabbin, que la nourriture était kasher et Dan a découvert lors du mariage, son propre mariage, que la famille de Wendy, sa femme, avait menti et la nourriture ne l'était pas. Je peux pas en faire d'exemple pour essayer de comparer parce que c'est un contexte religieux, une religion que moi je ne pratique pas, mais faites Faites juste vous mettre en contexte, c'est votre propre mariage à vous, vous voulez que les choses soient faites à votre façon parce que bien, c'est votre mariage, c'est votre jour, vous l'avez attendu depuis tellement longtemps, puis finalement, vous arrivez le jour de votre mariage, puis votre belle famille vous a menti, il y a juste eu un grand manque de respect de ce côté-là. Tout ça a donné le ton pour, entre guillemets, ce n'est pas toi qui dirige les choses dans cette famille, c'est nous qui le faisons et c'est évidemment ce ton-là qui a clairement donné l'idée de ce à quoi sa relation serait avec sa belle famille à l'avenir. Parlant de sa belle famille, qui sont-ils en fait? La famille Hiddleston consiste de Donna et Harvey, les parents et leurs enfants Robert, Charles, qui est appelé Charlie Hiddleston, et Wendy Hiddleston. Donna et Harvey Hiddleston ont tous deux grandi à New York. Donna est allée au Queens College et est devenue enseignante dans une école primaire, tandis que Harvey est diplômé de l'Université de Buffalo et a obtenu son doctorat en médecine dentaire à l'Université Temple. Le couple s'est marié en 1971 et une fois déménagé dans le sud de la Floride, Donna a quitté l'enseignement pour aider Harvey et a passé une grande partie de son temps à la maison pour s'occuper de leurs trois enfants. La carrière d'Harvey était florissante. À la fin des années 1980, il a publié de grandes publicités dans les journaux locaux pour son nouveau cabinet de dentisterie esthétique et restauratrice qui vantait les évaluations gratuites du sourire et les nouvelles technologies comme on le voit dans les émissions Extreme Makeover d'ABC. Il a changé le nom de son cabinet pour Institut Hiddleston pour l'esthétique et la dentisterie implantaire parce qu'il s'est rapidement fait un nom dans le secteur lucratif de la dentisterie esthétique. Le couple a acheté une maison de 5 chambres dans un cul-de-sac à Coral Springs et il y a beaucoup de photos de journaux qui démontrent le couple en train de danser pendant des bals, de charité et des collectes de fonds. On peut dire qu'ils étaient un peu la famille parfaite. The American Dream même. Mais vous savez où vous êtes et ce qui est parfait est toujours, toujours une illusion. Au fil des années, Donna Hiddleston a pris le contrôle de tous les aspects de l'avenir de ses enfants, les poussant à réussir. Elle supervisait leur scolarité, c'est elle qui décidait avec quel ami ils pouvaient jouer, elle les envoyait au camp d'été qu'elle décidait qu'ils allaient aller, c'est elle-même qui les transportait vers et depuis les activités parascolaires, bref, c'est elle qui contrôlait absolument tout. Leur fils Robert, dans un podcast sur l'affaire, a déclaré que Donna, sa mère et même parfois son père Harvey décidaient même avec qui les enfants avaient le droit ou non de sortir. Et là, je parle pas de sortir amicalement, je parle de sortir amoureusement. Malgré leurs efforts de faire paraître leur famille comme une all-star family ou une famille 5 étoiles, si je peux le traduire ainsi, on voit rapidement le grave dysfonctionnement au sein des Hiddleston. Il y avait là un désir parental particulièrement important. Les Hiddleston, qui étaient membres du temple réformé Beth Orr à Coral Springs, pensaient que leur enfant devait se marier selon leur foi.
Mais c'est quoi leur foi? C'est quoi leur religion?
J'allais justement là, dans le fond, le temple que je viens de parler, c'est une synagogue juive qui est affiliée au mouvement juif réformé, qui est l'un des principaux courants du judaïsme.
Muchas gracias!
Je vais y aller un petit peu plus en profondeur. Dans le fond, le mouvement réformé met l'accent sur la modernité, l'égalitarisme et l'adaptation à la culture contemporaine, tout en maintenant la tradition et les valeurs juives. Robert, quant à lui, a rencontré et est tombé amoureux d'une femme indo-américaine qui pratiquait l'hindouisme. Ses parents ont refusé d'accepter le mariage. Dans une interview pour le podcast Over My Dead Body, Robert Hiddleston a déclaré que ses parents l'avaient menacé pendant des années de le renier s'il épousait sa petite amie, qui était également médecin, soit dit en passant. Je veux pas dire qu'il y a un métier qui est un sous-métier ou moins important qu'un autre. Loin de là, je pense qu'on l'a vu assez intensément avec le COVID, à quel point que tous les métiers étaient importants, surtout celui des travailleurs essentiels. Je voulais juste vous mettre comme un peu dans le contexte de la mentalité des parents de la famille Hiddleston, puis de dire que malgré qu'elle était médecin, que c'est quelque chose qui est assez renommé pour des personnes comme eux, juste parce qu'elle pratiquait l'hindouisme, puis que c'était ça sa religion, ils ne voulaient pas l'accepter. Bref, tout ça a fait en sorte qu'en 2003, Robert a finalement rompu avec sa copine et a épousé, entre guillemets, une gentille fille juive de Dallas. Les fiançailles ont été fièrement annoncées par les parents de Robert dans le South Florida Sun Sentinel, mais cela n'a pas duré. Le couple a divorcé et Robert a renoué avec son ancienne petite amie.
Mais les parents s'attendaient à quoi?
On dirait qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de parents qu'on pourrait poser la même question.
Rien d'autre à dire.
À la grande surprise de Robert, ses parents ont assisté à leur cérémonie de mariage traditionnelle hindoue. Je vais le citer sur le podcast justement que je viens juste de vous parler. Il a dit, ouvre la citation, « Je pense que mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour améliorer les choses. » Fin de la citation. Mais malgré ça, il y a certaines blessures qui restent puis qui laissent leurs traces. L'autre fils des Adelson, Charlie, avait des problèmes différents que son frère, des problèmes professionnels. Parlant de lui, il y a un ami de la famille qui a dit, et je cite, « Charlie prend des risques. Je le connais depuis qu'il a 4 ans. C'est un playboy, un enfant du milieu. Il a la folie des grandeurs. Dans son esprit, il veut être James Bond, mais il est parodontiste. » Ferme la citation. Les archives publiques montrent que Charlie a été sanctionné à 2 reprises par l'État de la Floride, soit en 2015 et en 2023, pour une mauvaise pose d'implant ayant entraîné des lésions nerveuses. Comme j'ai dit, selon les archives de l'État, il a dû payer 187 000 $ pour faute professionnelle, puis 7 000 $ au Florida Board of Dentistry en amende et frais d'enquête, et il a également reçu un blâme sur son permis en 2019. C'est peu dire que les espoirs de la matriarche de la famille concernant le fait d'avoir des petits-enfants juifs semblaient reposer spécialement sur Wendy, qui avait déménagé avec son mari Dan à Tallahassee, où tous deux enseignaient à la Florida State University. On peut se demander, est-ce que Wendy a épousé Dan simplement pour faire plaisir à ses parents et non par amour? Leur premier fils, Benjamin, est né en 2009 et leur deuxième fils, Lincoln, est né en 2010. À première vue, il semblait que le couple avait tout pour plaire et était parfaitement heureux. Mais encore une fois, on est à Crème et Cocktail et Jess a une célèbre phrase que j'aime tellement et j'aimerais qu'elle dise en ce moment.
Quand on veut se rappeler à quel point l'humanité peut être sombre, il y a le true crime et les États-Unis.
Vous savez donc que la réalité d'un couple qui semble parfait est toujours loin de l'être. Wendy Adelson a publié un livre de fiction en 2011 dans lequel l'avocate protagoniste quitte son mari condescendant. Le 10 septembre 2012, lorsque Dan est revenu d'un voyage d'affaires à New York, il est rentré chez lui, dans une maison, pratiquement vide. Sur un matelas se trouvait une pile de papiers de divorce. Dan, sur le coup, a été stupéfait par ce changement soudain et a tenté de réconcilier sa relation avec sa femme Wendy. Entre-temps, Wendy avait amené les garçons et les avait conduits environ 500 km jusqu'à Coral Springs, en Floride, où vivait sa famille, et le divorce a été extrêmement controversé. Bien qu'il ait été finalisé en 2013, le litige concernant la garde des enfants est devenu rapidement brutal. Selon les emails entre Donna et sa fille Wendy, la mère de famille a d'abord dit à sa fille Wendy que la famille pourrait offrir à Dan $1 million pour laisser les enfants déménager dans le sud de la Floride. Et lorsque Wendy a refusé de le faire, Donna, sa mère, lui a alors demandé de menacer son futur ex-mari Dan, un conservateur strict, de convertir leur enfant au catholicisme s'il continuait de refuser. En juin 2013, la demande de Wendy visant à déplacer définitivement les garçons a été refusée et le couple a donc décidé de partager la garde des enfants 50-50. Dan a dû verser à Wendy une somme forfaitaire de $120 000 et un paiement mensuel de $840 en pension alimentaire pour les enfants. Pendant le divorce, Dan a également déposé une requête pour garder la mère de Wendy, Donna, éloignée de ses enfants. Apparemment, l'un des enfants lui aurait dit que sa grand-mère pensait, et je cite, « que tu es stupide et qu'elle te déteste ». Comprenablement, Dan ne voulait pas ce genre de personne autour de ses enfants. Entre-temps, Dan et Wendy avaient tous deux formé de nouvelles relations. Wendy, quant à elle, sortait avec un collègue professeur de la FSU nommé Jeffrey Lacasse. Le vendredi 18 juillet 2014, Dan, 41 ans, a quitté sa maison à Tallahassee pour amener ses garçons à la garderie. Il les a déposés à leur garderie à 8h50 du matin sans savoir que ce serait la dernière fois qu'il verrait ses enfants. De là, il s'est dirigé vers le gym pour s'entraîner et est arrivé à 9h12 et a quitté le gym vers 10h30. Pendant tout ça, il ne s'était pas rendu compte que toute la matinée, une voiture le suivait. Alors qu'il arrivait dans son allée à sa maison, son téléphone portable a sonné et il a donc pris l'appel. Quand il a pris l'appel, il a dit à la personne qui était à l'autre bout du fil qu'il y avait quelqu'un dans son allée qu'il ne reconnaissait pas. La personne à l'autre bout du fil a entendu comme un grognement fort et une conversation étouffée. Il a entendu Dan respirer, mais il était incapable de le faire répondre. Pendant ce temps-là, les voisins de Dan ont entendu ce qu'ils pensaient être des coups de feu et se sont précipités vers sa maison. Ils sont revenus précipitamment pour appeler le 911 à exactement 11h02. Ils ont dit au répartiteur que Dan était dans sa voiture, que les vitres étaient brisées, qu'il y avait de la vitre partout et qu'il y avait du sang partout sur le visage de Dan. Il leur a également fait savoir que Dan ne répondait pas. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital avec 2 blessures par balle à la tête. Le voisin qui a appelé le 911 a déclaré à la police qu'il avait vu une Prius de couleur claire s'éloigner rapidement de la maison de Dan après avoir entendu les coups de feu. Rapidement, la police a trouvé Wendy, son ex-femme et mère de ses enfants, en train de déjeuner dans un restaurant local et l'a amenée pour l'interroger. Elle a permis que sa camionnette soit fouillée et que ses mains soient prélevées pour des résidus de balles. Elle a dit que ce matin-là, elle avait attendu un réparateur de télévision chez elle, puis ensuite elle s'est rendue dans un magasin qui vend de l'alcool, puis finalement, elle a déjeuné où elle avait été retrouvée. 15 heures après que Dan a été abattu dans sa propre entrée, il a été déclaré mort. Professeur très apprécié et populaire, il a fait l'objet de nombreux hommages de la part de la communauté universitaire. Le lendemain de sa mort, un service commémoratif a eu lieu à la synagogue qu'il avait fréquentée, la congrégation Summer Torah à Tallahassee. Il a été enterré au cimetière Pardes Shalom à Maple, en Ontario. Peu après la mort de Dan, Donna et Harvey Adelson ont déménagé à Miami Beach avec Wendy et les 2 garçons, et Wendy a également changé les noms de famille des garçons de Markle à Adelson.
J'ai comme pas de commentaire à dire, mais tu m'as comme tout de suite... Passer le micro parce que t'as vu mes yeux devenir ronds comme des 2 piastres, mais quel manque de respect à la mémoire de cet homme, je veux dire.
Je trouve juste ça quand même suspect que le fait que ton mari vienne se faire abattre, puis la première chose que tu fais, c'est changer le nom de tes enfants pour ton propre nom de famille. C'est un peu spécial.
Je veux dire, ton ex-mari se fait assassiner d'une balle de quelqu'un qui ne semble pas connaître alors que t'es en train de te battre pour sa garde. Mais 1 plus 1 égale 2.
On est bon en maths, à Crémy Cocktail. Le 21 juillet 2014, Jeffrey Lacoste, désormais ex-petit ami de Wendy, a été interrogé. Au cours de ses multiples entretiens, il a parlé au détective du grand dysfonctionnement au sein de la famille de Wendy. Jeffrey a expliqué que la famille de Wendy voulait désespérément qu'elle et ses 2 enfants reviennent avec eux dans le sud de la Floride et il a aussi dit qu'ils étaient devenus obsédés par détester Dan. Tout ça, c'est un vrai 360 de la part de Donna Adelson qui avait aidé sa fille à choisir Dan, son futur mari, on va se le rappeler. Supposément, Donna aurait fini par détester le mari de sa fille parce qu'il est devenu trop pieux dans la foi selon elle. Ce n'est pas comme s'il priait dans la synagogue toute la journée ou qu'il se promenait vêtu de vêtements ultra-orthodoxes qui, d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez tant que vous n'allez pas contre les droits et libertés de d'autres. Lui, là, il voulait simplement que sa famille suive les lois alimentaires cachées et que ses 2 fils reçoivent une éducation juive, sa propre éducation, d'une manière ou d'une autre, tout ça a rendu Donna folle. Selon des emails, elle et son fils Charlie auraient même voulu habiller les enfants de Dan comme Hitler juste pour lui faire du mal. Non, mais... sérieux, c'est quoi le problème ici, là? De retour à Jeffrey, l'ex-petit ami de Wendy, il a également précisé que le frère de Wendy, Charlie, devrait être leur principal suspect. Pendant ce temps-là, la police a parcouru les vidéos de surveillance de la zone et ont localisé la Prius. Une récompense de Crime Stoppers de 25 000 $ était initialement offerte et une bourse distincte de 100 000 $ financée de manière indépendante a été offerte en juillet 2015. À cette époque, premier anniversaire du meurtre, le service de police de Tallahassee a convoqué une conférence de presse et a montré des photographies d'une Toyota Prius en pain argenté en mica, demandant au public de l'aider à localiser le véhicule. Ils ont également été conduits vers une société de location basée à Miami et le contrat de location a été signé par Sigfredo Garcia et Luis Rivera. La police a utilisé les pings des téléphones portables pour vérifier qu'ils étaient arrivés tôt le matin à Tallahassee le jour où Dan a été abattu. Tous 2 ont été arrêtés fin mai et début juin 2016, plus de 2 ans après le meurtre de Dan. Les preuves contre les deux hommes comprenaient un téléphone portable, des relevés bancaires et des relevés de péage électronique SunPass, des images de caméras de sécurité, des bâtiments et des bus de la ville le long des rues que Dan et les tueurs présumés avaient parcourues, ainsi que le témoignage d'un informateur anonyme et d'un témoin à proximité. Maintenant, il fallait que les enquêteurs établissent le lien entre Dan et ces deux hommes et évidemment, rapidement, ils ont déduit qu'ils étaient des tueurs à gages engagés pour bien les tuer. La police a finalement réussi à relier les deux hommes à... Surprise, surprise, Jess, tu penses c'est à qui?
Nul autre que Wendy.
Eh bien oui, la famille de Wendy qui était obsédée par détester Dan. Katie McBanois, la mère des deux enfants de Sigfredo Garcia, qui est l'un des tueurs à gages, sortait également avec Charlie Adelson, qui est le frère de Wendy. Elle encaissait régulièrement les chèques de l'entreprise dentaire familiale Adelson, mais il n'y avait aucune trace d'elle ayant réellement travaillé là-bas. Juste après le meurtre de Dan, Cathy a reçu un dépôt de 44 000 $ sur son compte et a reçu par la suite des chèques de l'entreprise familiale Adelson qui totalisent environ 13 000 $. Non seulement ça, Katie a été la première personne que Sigfredo Garcia a appelée juste après le meurtre de Dan Markle. Les détectives pensaient que la famille Adelson y ont engagé ses deux tueurs à gages pour se débarrasser de Dan afin que Wendy et les enfants puissent déménager dans le sud de la Floride tout près d'eux. Le FBI a lancé une opération d'infiltration et a commencé à enquêter sur la famille Adelson. Alors que Luis Rivera, un des tueurs à gages, était en prison pour une accusation liée à une accusation de gang, la police lui a proposé un accord de plaidoyer. S'il décrivait son rôle dans le crime et plaidait coupable de meurtre au deuxième degré, ils allaient retirer la peine de mort et, bien, il a décidé de coopérer. C'est là que, bien, il a affirmé que son complice Sigfredo Garcia l'avait appelé et lui avait demandé s'il souhaitait participer à un hit. Sigfredo a dit à Luis qu'il recevrait 35 000 $ sur 100 000. Le 100 000 était réparti entre trois personnes qui étaient Cathy, Sigfredo et Luis. Il a indiqué que la mère de Wendy voulait la mort de Dan afin de pouvoir ramener sa fille et ses petits-enfants avec elle. Il a aussi expliqué qu'ils avaient suivi Dan chez lui ce jour-là et que Sigfredo Garcia avait sauté de la voiture et avait tiré sur Dan à deux reprises. Le 15 octobre 2019, Sigfredo Garcia a été condamné à la prison à vie pour meurtre au premier degré et à 30 ans supplémentaires pour complot. Luis Rivera, quant à lui, a été condamné à 19 ans de prison dans le cadre de son accord de plaidoyer. Cathy McBuena a été condamnée à la prison à vie. Pendant des années, la police et les procureurs ont désigné Charlie comme suspect dans l'organisation du meurtre de Dan. Lors d'un procès en 2019 contre l'un des tueurs à gages, il a été qualifié de, en guillemets, co-conspirateur non inculpé. L'avocat de Charlie et Donna a nié à l'époque tout rôle familial dans le meurtre. Par contre, le 21 avril 2022, Charlie, le frère de Wendy, a été arrêté et accusé de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de sollicitation de meurtre. Ces accusations-là étaient basées sur les conclusions du FBI sur leur opération d'infiltration. Charlie a témoigné pour sa propre défense, affirmant que lui et sa famille avaient été victimes d'un complot d'extorsion élaboré, orchestré par les tueurs. Ses avocats ont déclaré au jury que les tueurs avaient appris que Charlie avait discuté de l'embauche de quelqu'un pour tuer Dan Markle, puis avaient décidé de commettre le meurtre eux-mêmes et avaient menacé de tuer Charlie s'il ne les payait pas. Parce que tout ça, ça fait évidemment plein de sens. Wendy, la sœur et l'ex-femme du défunt Dan Markle, qui a d'ailleurs bénéficié d'une immunité limitée pour témoigner au procès, a insisté sur le fait que ni elle, ni sa famille n'avaient quoi que ce soit à voir avec le meurtre de son ex-mari. Mais après seulement 8 jours de témoignage, un jury de Tallahassee est parvenu à une conclusion rapide et sans aucun doute, délibérant pendant seulement 3 heures avant de déclarer Charles Adelson, soit Charlie, coupable de 3 chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré. Par la suite, la famille de Dan Markle, dont les parents Ruth et Phil et la sœur Shelley ont discuté des profondes blessures laissées par le meurtre de Dan, sa sœur Shelley a dit, et je cite, « Tout ça a été une épreuve très longue et terrible pour nous tous. Ça a coûté très cher à nos vies. Il y a un vrai sentiment de soulagement aujourd'hui. Ferme la citation. À la suite du verdict de culpabilité, Donna Ellison a passé plusieurs appels téléphoniques à son fils Charles, en guillemets Charlie, enregistrés par les autorités qui ont finalement conduit à son arrestation en tant que co-conspiratrice du complot. Donna a dit à son fils qu'elle mettait les choses en ordre, créait des fiducies et s'assurait que l'on prenait et prendrait soin de ses petits-enfants. Les autorités ont déclaré qu'elle lui avait parlé d'un projet de fuite vers un pays non extradé et qu'elle avait également évoqué un projet de suicide. Donna Ellison a été arrêtée le 13 novembre 2023 à l'aéroport international de Miami. La vidéo d'une caméra corporelle d'un policier montre la police de Floride arrêtant Donna à l'aéroport alors qu'elle et son mari tentaient de monter à bord d'un vol aller simple, important de retenir, à destination du Vietnam. Dans la vidéo, Donna a été escortée à travers l'aéroport et dans une voiture de police. Elle a dit, je cite dans la vidéo, « Je ne savais pas qu'il y avait un mandat. » Fin de la citation.
J'aime tellement ça quand les criminels sont tellement innocents que ça en vient à leur arrestation. Genre, j'aimerais tellement voir la face des policiers quand ils la regardent. Ils doivent tellement la regarder de haut, puis avec raison.
Ton fils vient juste de se faire arrêter pour complot puis meurtre au premier degré, et encore plus. Puis toi, tu te dis, ah non, je savais pas qu'il y avait des mandats pour moi. C'est pour ça que je m'en vais au Vietnam avec un aller simple. Je n'avais aucune idée. Moi, je voulais abandonner mes petits-enfants que j'aime tant, ma fille que j'aime tant, mes enfants que j'aime tant, mais j'ai pris un aller simple au Vietnam.
Référence full année 2000, mais tu sais, le film de Cendrillon là, avec Hilary Duff puis la mère méchante, là, puis à la fin, genre, je savais pas! Exactement la vision que j'ai.
C'est une histoire de Cendrillon, j'aime tellement ce film-là, ça l'a marqué ma vie, c'est un de mes films préférés. Il y a aussi Chad Michael Murray, on l'aime aussi, mais let's go Jennifer Coolidge!
C'est le personnage de la belle-mère qui est, ma foi, un personnage iconique. Je veux dire, le film a besoin de ce personnage pour fonctionner. Je la vois juste manger son jambon, là, puis là, il tombe dessus en avant de la piscine.
Une fois, d'ailleurs, je pense que c'est dans nos débuts à Crime et Cocktail qu'on avait fait notre première erreur de... Je sais pas trop c'était quoi notre erreur, mais on avait fait une erreur, puis... pour s'en excuser sur les réseaux sociaux puis expliquer l'erreur, on avait juste publié plein de mèmes de Jennifer Coolidge dans ce film-là, justement. C'était... Honnêtement, je pense que c'était une de nos apogées de mèmes à Crime et Cocktail.
Faut dire que... on a le mème facile. Pas pour nous vanter, mais ça vaudrait la peine d'aller regarder les mèmes qu'on peut pondre parce que il faut se donner des claques dans le dos quand on en a besoin, mais on est hilarant dans pas de job.
Il faut, surtout dans l'état qu'on est aujourd'hui, puis qu'on était dans les dernières semaines, il faut. De retour au cas, Donna fait face à des charges de meurtre au premier degré et à une sollicitation de meurtre. La vidéo de son arrestation est disponible un peu partout sur Internet et des plateformes comme TikTok, et je dois avouer que c'est assez satisfaisant à regarder. Dans la vidéo, on y voit Donna Ellison réagir de façon exaspérée en disant « Oh my God », en roulant les yeux vers le ciel. Elle semble être en FaceTime avec quelqu'un ou en tout cas, elle essaie de taper quelque chose sur son cellulaire, j'imagine, en essayant de parler avec son mari ou les policiers en même temps si elle n'est pas en FaceTime. Comme si tu avais le droit de continuer à jouer sur ton cell quand tu te fais arrêter pour meurtre. Tu sais, en tout cas... Bref, dans la vidéo, elle se fait juste arracher son téléphone des mains, puis à mes yeux, c'est la partie satisfaisante du vidéo. C'est tellement... Ah, j'ai pas de mots pour le décrire, je vous conseille fortement d'aller le regarder, que n'importe quelle plateforme qui soit, ça vaut vraiment la peine. Imaginez, là, une matriarche qui passe des années à tenter de tout contrôler pour maintenir l'illusion d'une famille parfaite, celle qui croyait sa famille comme celle des Sopranos. Cette figure-là, à la fois mesquine, méchante, manipulatrice, qui voit enfin le karma lui rendre visite à l'âge de 70-quelques années. Justement, après des décennies de manipulation et d'illusion, elle est enfin confrontée aux conséquences de ses actions. Les procureurs affirment que le rôle clé de Donna Ellison était d'aider à planifier et à financer le meurtre avec la motivation que la famille serait en mesure d'élever les enfants de Wendy dans le sud de la Floride sans l'interférence de Dan Markle. Donna Adelson est détenue sans caution à la prison du comté de Léon en attendant sa prochaine audience au tribunal et son procès devrait commencer le 30 septembre 2024. Comme à notre habitude à Crime et Cocktail, on vous donne tous les morceaux de la tarte pour que vous puissiez bâtir votre propre opinion. C'est pourquoi je tiens à préciser que Wendy Adelson a clamé que Dan Markle avait été abusif émotionnellement envers elle. Ces accusations-là ne sont basées sur aucune preuve, parce qu'il n'y en a aucune. Oui, il est souvent difficile pour les victimes d'abus émotionnels d'avoir des preuves tangibles de cette situation, contrairement aux abus physiques ou sexuels, qui sont eux-mêmes extrêmement difficiles à prouver parfois, les abus émotionnels peuvent être plus subtils et difficiles à documenter.
Surtout plus subjectifs.
Effectivement. Les preuves peuvent être principalement basées sur les témoignages de la victime et les observations de personnes proches qui ont pu remarquer des changements de comportement ou des signes de détresse. Les abus émotionnels peuvent prendre de nombreuses formes, telles que la manipulation psychologique, le contrôle excessif, la dévalorisation, la critique constante, l'isolement, etc. Et ces comportements-là peuvent être très dommageables pour la santé mentale et émotionnelle de la victime, mais il peut être vraiment difficile de les prouver de manière concrète. Cependant, dans le cas précis d'aujourd'hui, puis ça c'est mon avis personnel, puis c'est aussi celui de plusieurs interlocuteurs sur Internet, si Dan avait été abusif, dans les emails de Donna, ben ça aurait été rempli d'accusations détaillées. On se rappelle qu'elle a envoyé beaucoup d'emails, puis que ces emails-là étaient remplis de plein de preuves qui ont mené à l'accusation d'elle et son fils. Dans ces emails-là, ben elle parlerait pas juste à Wendy des faux baptêmes catholiques, des écoles catholiques et des tuteurs catholiques, là. Donna était très offensée et furieuse que Dan amenait les garçons au service hébreu et les place à la crèche pendant une partie du service qui est d'ailleurs quelque chose de vraiment sweet. C'est juste une belle chose que tu peux espérer que le père de tes petits-enfants fasse. Mais elle, dans ces emails-là, elle parlait en détail à quel point elle était scandalisée qu'il fasse ça. Fait que, si on suit le personnage que Donna était, je me dis que c'est sûr et certain qu'il y aurait eu des preuves. Dans les emails, elle aurait parlé de l'abus émotionnel, entre guillemets, que supposément Dan aurait fait à sa fille. Si Dan Markle avait été abusif de quelque manière que ce soit émotionnellement, mais comme j'ai dit, les courriels l'auraient mentionné. En plus de ça, si Dan avait réellement été abusif, pourquoi est-ce que Donna aurait proposé à sa fille de menacer son abuseur, la mettant ainsi dans un plus grave danger? Bref, malheureusement, en plus de perdre leur fils, les parents de Dan ont été coupés de leurs propres petits-enfants. Ils ont finalement été réunis avec eux, mais ils ne les avaient pas vus depuis 6 ans. Après l'arrestation de Charlie, des journalistes ont demandé à Ruth, la maman de Dan, si elle voulait envoyer un message aux Adelson. Elle a dit que non, mais elle voulait seulement leur demander si ça valait le coup. Est-ce que ça valait le coup de tuer mon fils? Et c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui sur Dan Markle et la famille Markle. Je veux vraiment mettre la lumière sur à quel point la famille Markle est extraordinaire. C'est tellement facile de trouver sur Internet et les réseaux sociaux les marques, le passage de cette famille-là et toute la bonté, la bonne énergie qu'ils apportent et qu'ils ont apporté et continuent d'apporter au monde. Je veux vraiment finir l'épisode sur le fait que Dan... La chose qui était le plus important à ses yeux, c'était ses deux garçons, que ce soit ses amis ou sa famille, peu importe qui. Il faisait juste dire que Dan, le plus important à ses yeux, c'était ses enfants. Il faisait juste parler de ses enfants, il voulait juste le mieux pour ses enfants. C'était un professeur qui était tellement, tellement apprécié. Je veux vraiment qu'on se rappelle de Dan Markle, la personne qu'il était et la personne qu'il va continuer d'être au travers du temps.
J'ai rien d'autre à rajouter. Un énorme merci pour cet épisode, comme une fois, tellement bien monté, tellement bien narraté. Je suis une grande fan, ma bonne chum. Là. J'ai rien d'autre à dire.
Merci, Jess. C'est comme j'ai dit au début de l'épisode, ben en fait, je pense comme j'ai dit la semaine passée dans le teaser, c'est pas encore fini et on va continuer d'avoir des nouvelles peu à peu, surtout en septembre quand le procès de Donna va commencer. Est-ce qu'il va y avoir des arrestations de plus faites avec le père, Harvey Adelson, ou Wendy Adelson, l'ex-femme? seul le temps peut nous le dire. Ce que je peux vous assurer, c'est que c'est sûr et certain qu'on va vous en parler à Crime et Cocktail dès que ça va arriver, dès qu'il va y avoir des nouvelles à propos de ça.
J'ai en fait rien à rajouter à tout ça. Puis malheureusement, pas mal sûr que la semaine prochaine, on s'en va pas vers plus de clarté.
J'imagine pas, parce que la semaine prochaine, on revient à notre classique épisode spécial Zodiac et on va vous présenter un épisode spécial Zodiac du Taureau. Fait que si c'est votre signe ou si c'est pas votre signe puis vous nous aimez, j'espère que vous nous aimez, on va se retrouver la semaine prochaine.
Avec le plus grand des plaisirs à
Crime et Cocktail.
Cheers, guys!
Chin, chin!